Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Publication ce jeudi à Kinshasa de la feuille de route de la CENI pour 2021-2027 et du calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Des précisions dans ce journal sur ces échéances qui préparent le nouveau cycle électoral en RDC. Au lendemain du massacre de déplacés sur les sites de la plaine Savo en territoire de Djougou en Ituri, la population se remet difficilement du choc. La zone est sécurisée par les FARDC et les casques bleus pour empêcher une nouvelle attaque. Notre invité, c'est le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni au Nord Kivu, Franck Mouindo Fikiri, parle de la baisse du tarif des soins médicaux à cet hôpital. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Massirika, mise en onde de Diedona Nyangasa. Politique pour commencer votre journal. Deux importantes décisions ont été rendues publiques ce jeudi à Kinshasa par la CENI. La première concerne la publication de la feuille de route du processus électoral 2021-2027 et la seconde porte sur la publication du calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. La feuille de route englobe toutes les activités de la CENI partant du mois de novembre 2021. Elle reprend également le séminaire d'imprégnation et production des outils de gestion du processus en passant par l'organisation de la cartographie électorale, des scrutins indirects des sénateurs et conseillers urbains jusqu'au préparatif du nouveau cycle électoral de mars 2024 à mars 2027. Quelques séquences de cette feuille de route de la CENI avec vous, Jeff Ngoy.
Cette feuille de route n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui sera publié ultérieurement selon le président de la CENI et s'articule autour de trois séquences, à savoir celle des élections directes du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, des conseillers de communes, de secteurs et de chefferies. La période est de janvier 2022 au mois de décembre 2023 et mars 2024. Elle inclut notamment le plaidoyer et lobbying auprès d'autres institutions sur la dite feuille de route, la mise à jour de la cartographie opérationnelle. La deuxième séquence englobe les élections indirectes des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, des maires et maires adjoints, des bourgmestres ainsi que des chefs de secteur. Elle va de janvier à mars 2024. Enfin, la troisième séquence concerne les activités de pérennisation du processus électoral allant des mois de mars 2024-2027. Ici, la CENI prévoit entre autres la sensibilisation électorale, la vulgarisation des lois et communications publiques, l'éducation civique et électorale, le contrôle des inventaires et maintenance du matériel électoral.
La non-autonomie financière de la CENI portera atteinte à son indépendance, a déclaré aujourd'hui le président de la CENI en relevant plusieurs autres contraintes liées au respect de la feuille de route qui a été publiée aujourd'hui. Il s'agit des contraintes d'ordre politique, juridique, sécuritaire et logistique. Selon le président de la CENI, si ces contraintes ne sont pas vidées, elles auront une incidence sérieuse sur la concrétisation de tout ce que la feuille de route annonce aujourd'hui. Denis Kadima explique quelques-unes au micro de Jeff Ngoy.
Il s'agit d'abord des contraintes d'ordre politico-sécuritaire. Le retard de l'appui des institutions de l'État dans l'accompagnement de la CENI, l'insécurité dans certaines zones du territoire national, ça peut avoir une incidence sérieuse sur les opérations électorales, notamment le déploiement du personnel et du matériel, ainsi que la collecte des données. Les contraintes financières. La non-reconnaissance de l'autonomie financière de la CENI entache son indépendance. Il y a aussi l'incertitude quant au décaissement des fonds par le gouvernement. Nous allons bien sûr, dans l'avenir, discuter avec des partenaires internationaux. Là aussi, l'éventuel non-respect des engagements des partenaires qui souscrivent au financement du processus électoral pourrait avoir une influence négative sur les délais des opérations. Le possible retard dans l'adoption des lois essentielles au processus électoral à la session de mars 2022, l'incertitude sur les grandes options à lever dans le cadre des réformes électorales.
Et puis, le programme du développement de 145 territoires de la RDC est une vision qui ne cadre pas avec un agenda électoral. Ces précisions ont été données ce jeudi à Radio Okapi par le ministre d'État du Plan. Christian Mwando confirme que 450 millions de dollars américains sont déjà disponibles pour l'exécution de ce projet, dont le coût global est de plus d'un milliard de dollars américains. Il conseille aux entreprises locales à travers la FEC et la COPEMECO de s'organiser pour gagner les marchés. Ce programme sera lancé la semaine prochaine par le président Félix Tshisekedi. Christian Mwando est au micro de Kéline Kouté.
Je pense que le gouvernement que le président a mis en place au mois d'avril dernier n'a pas à réfléchir par rapport aux élections. La priorité nous a été fixée, la ligne de conduite nous a été fixée et nous avons traduit cette ligne de conduite en un programme. Et ce programme-là, c'est le premier programme que nous présentons. Il peut ou ne pas se terminer maintenant. Mais le programme est là et il sera appliqué. Et nous espérons qu'il aura le terme, justement, avant la fin de ce mandat. Il faudrait que ce programme puisse au moins voir sa réalisation, si pas se terminer. Donc, l'agenda est un agenda de vision, ce n'est pas un agenda électoral. La durée est de 2 ans parce qu'on considère qu'au bout de 2 ans, il y aura une autre équipe probablement qui pourra prendre le relais, soit avec le même président, soit avec un autre groupe. Donc cela n'entre pas en ligne de compte. Notre travail, c'est d'aboutir à l'exécution parfaite de ce programme. Les marchés seront attribués par appel d'offres en privilégiant les entreprises ou les ONG locales qui sont installées localement, qui connaissent les terrains et qui utilisent les enfants des territoires.
Dans un autre chapitre, 48 heures après le massacre d'une cinquantaine de déplacés dans le site de la Plaine Savoie en territoire de Djougou en Ituri, la population se remet difficilement de ce choc. Selon des sources locales, la plupart des déplacés ont décidé de rester sous les sites. D'autres sont allés vers les lieux où sont exposés les corps. Les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO sont postés aux alentours du camp pour sécuriser ce milieu et empêcher toute nouvelle attaque du camp. Le président de la Croix-Rouge locale indique qu'il est difficile d'inhumer les défunts faute de moyens logistiques. À Bounia, Jean-Claude Lokidile.
C'est un climat de deuil et de désolation qui règne ce matin au site de Plaine Savoie. Certains déplacés sont postés devant leur hutte, d'autres préfèrent rester dans leurs abris. Difficile de se remettre de ce drame, déclare une source sur place. Ceux qui exercent de petites activités génératrices de revenus ont préféré ne pas placer leurs marchandises sur les étalages, comme pour observer le deuil de leurs frères et sœurs morts dans cette attaque. Beaucoup de déplacés qui avaient quitté le site la veille pour se mettre à l'abri passent la nuit sous des hangars, dans des écoles et des églises, à Boulay, à 3 km du site, où la sécurité est garantie. Ce matin, l'équipe de la Croix-Rouge s'attelle à inhumer les corps. Nous sommes butés à des sérieux problèmes, déclare le président de cette organisation humanitaire dans ces territoires. Il nous faut une machine pour creuser une fosse commune où ces personnes seront enterrées, explique-t-il. Ernest Decana dit avoir soumis un état de besoin aux autorités du territoire pour solliciter une assistance, notamment des cercueils, des couvertures ainsi que des habits. Toute la nuit, des militaires des FADC et des casques bleus de la MONUSCO ont organisé des patrouilles en vue de sécuriser les gens qui sont restés sur le site, ajoute ce secouriste. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Okapi.
En lien avec ce dossier, 2 hélicoptères de la MONUSCO ont évacué hier 19 blessés, dont 3 enfants, des Bayou vers la clinique privée de Bounia où ils sont pris en charge. L'un des rescapés rencontrés ce jeudi matin affirme à Radio Okapi avoir vécu l'horreur et n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention des casques bleus de la MONUSCO. Logo l'ONU remercie la mission onusienne. Il s'est confié à Clarisse Zindoula.
La MONUSCO nous a transporté de Boulay jusqu'ici à bord de son hélicoptère. Nous sommes venus de là, la MONUSCO nous a transporté de Boulay jusqu'ici et puis nous a amenés ici à l'hôpital. Nous étions à l'hôpital à Thé, à Boulay, à la suite de la blessure que nous avons eue suite à l'attaque des Codeco la nuit dernière. Nous remercions beaucoup la MONUSCO pour nous avoir transportés au bord de son hélicoptère et nous amener ici pour les soins appropriés. Parce que si nous restions là-bas, nous n'aurions pas de bons soins. Et j'ai continué à remercier sincèrement la MONUSCO pour nous avoir facilité la tâche et nous amener jusqu'ici pour les soins appropriés.
5 morts, c'est le bilan d'une nouvelle attaque de rebelles ougandais de l'EDF hier soir dans la localité de Nobili, située à l'est du territoire de Beni au Nord Kivu. Ce jeudi matin, les habitants qui se sont déplacés nuitamment vers l'Ouganda ont regagné leur résidence. Pour l'instant, les FARDC contrôlent la situation. Et puis un calme précaire règne à Mitouaba après une matinée agitée hier mercredi, même si les bilans officiels n'est pas encore donné par la délégation qui a été dépêchée. Plusieurs sources renseignent qu'il y a eu des morts parmi les miliciens Bakatakatanga lors des affrontements avec les FARDC. Plusieurs sources locales affirment également que ces miliciens ont rejoint la brousse. Pour en parler, retrouvons à Lubumbashi Jean Gandou.
La délégation conduite par le ministre provincial de l'Intérieur qui est allée à Mitouaba pour s'enquérir de la situation qui a prévalu dans ce territoire est rentrée ce jeudi à Lubumbashi. Elle laisse derrière elle Mitouaba centre vidé de la majeure partie de sa population. La plupart ont fui mercredi au moment des échanges de tirs entre les militaires et les miliciens. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que tous les miliciens sont rentrés en brousse. Cependant, dans leur rang, quelques-uns manquent à l'appel, renseignent certaines sources sous place. Il s'agirait pour les uns des 3 miliciens tombés au cours des échanges de tirs et d'un officier de l'armée blessé par les miliciens à l'aide d'armes blanches. Pour les autres, ce sont 6 miliciens qui sont tombés et qui auraient été jetés dans une fosse septique et d'un élément des forces armées blessé. Bilan non confirmé par l'autorité territoriale qui parle d'un milicien qui est tombé dans la fosse septique pendant les tirs de sommation de l'armée. Repêché, il a rendu l'âme à l'hôpital. Plusieurs habitants redoutent les représailles des éléments Bakatakatanga qui, dans leur fuite, auraient promis de revenir à Mitouaba centre. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Revenons ici à Kinshasa. Au lendemain d'une drame qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes, le marché de Matadi Kibala n'a pas fonctionné ce jeudi. Quelques policiers y sont déployés. Des vendeurs trouvés sur les lieux se disent inquiets. C'est un reportage de Jean-Francis Mouya et Priscilla Badjoko.
Nous sommes au marché de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. Les activités sont paralysées. Plusieurs étalages sont vides. L'on peut observer la présence des agents de la police nationale congolaise déployés et de vendeurs réunis par petits groupes. Leur principal sujet de conversation, le drame d'hier. Et que sera leur sort ainsi que celui de leur famille, qui dépendent essentiellement de leur commerce. Les vendeurs disent également être choqués d'entendre les autorités qualifier ce marché de pirates, alors que les taxes y sont régulièrement perçues. Suivez l'un d'eux.
Il y a même les gens qui ont étudié, mais qui n'ont pas de boulot, qui sont en train de se débrouiller de ça et là pour trouver quoi manger, pour payer les loyers et autres. Mais en ce moment ici, nous sommes menacés, nous sommes tracassés par la police, pour que l'État congolais prenne des dispositions afin qu'il y ait des solutions idoines pour nous trouver un marché moderne afin qu'on commence à aller vendre nos histoires.
Le drame d'hier a fait 26 morts, le 3 rescapés, admis à l'hôpital. Moncole ont été libérés ce matin. Ils sont bien portants, rapporte le colonel J.C. Moufassoni, commandant de l'escadron protection civile du commissariat de Mongafula.
L'actualité en plus bref, c'est aussi l'ouverture demain vendredi du festival Amani au village Iwoussi à Kituku, à l'ouest de la ville de Goma au Nord Kivu. Un rendez-vous annuel depuis 2013 pour promouvoir la paix dans la région des Grands Lacs. L'événement est précédé d'une finale du concours de l'entrepreneuriat. Au moins 3 meilleurs projets ou idées d'entreprise ont reçu leur prix ce jeudi en termes de financement de leurs projets. Ils sont comptés parmi les 10 lauréats qui avaient été sélectionnés il y a près d'une année.
Actualité internationale.
Le Burkina Faso a été épargné des nouvelles sanctions lors du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu ce jeudi à Accra au Ghana. Cependant, l'instance sous-régionale recommande au nouvel homme fort de Ouagadougou de donner un chronogramme complet assez raisonnable de sortie de crise pour aller aux élections. Le sommet d'Accra au Ghana d'aujourd'hui fait suite à la crise burkinabé après les coups d'état militaire du 24 janvier dernier. Le dirigeant de l'organisation l'organisation État islamique Abu Ibrahim al-Hashimi a été tué mercredi soir lors d'une opération menée au nord de la Syrie. Annonce faite ce jeudi après-midi par Joe Biden. Le président des États-Unis affirme qu'après cette opération, tous les soldats américains sont sains et saufs et que des femmes et des enfants d'Abu Ibrahim ont également péri lors de cette opération. Et puis le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra demain vendredi matin à Kiev pour rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Depuis plusieurs mois, Tayyip Erdogan propose sa médiation dans la crise avec la Russie qui est accusée de préparer l'invasion de son voisin.
L'invité.
Notre invité, c'est le médecin directeur de l'hôpital général de Beni au Nord Kivu, Franck Mouindo Fikiri, parle de la hausse, de la baisse plutôt, du tarif de soins médicaux à cet hôpital. Il s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Monsieur le docteur, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Actuellement, comment évoluent les activités sanitaires à l'hôpital général de référence de Beni?
C'est une joie pour moi de communiquer à la population à travers votre radio que actuellement nous avons un tarif forfaitaire dérisoire de vigueur à l'hôpital général de référence de Beni et dans nos centres de santé respectifs. Pour bénéficier de ces tarifs, faudra que tous les ménages s'identifient au niveau des aires de santé respectives ou des centres de santé respectifs. On pourra accorder un jeton à ces ménages-là. Et à chaque occasion que un membre de ces ménages pourra tomber malade, il pourra venir se faire soigner à l'hôpital général de référence avec une note de référence à provenance de ce centre de santé respectif. Il va payer un tarif très faible. On l'appelle tarif incitatif. Pour celui qui est inscrit.
C'est par exemple
lorsque vous venez voir un médecin à l'hôpital général et que vous êtes inscrit, vous allez payer 4 $ au lieu de 19 $ pour celui qui n'est pas inscrit. Pour une dame qui vient accoucher, au lieu de payer 54 $, elle va payer 5 $ seulement après un accouchement.
Oui, monsieur le docteur, maintenant, celui qui vient consulter, il paye 4 $ au lieu de 19. Les restes, les 15 $ là, qui va payer?
Le reste, c'est qu'il y a un partenaire du gouvernement qu'on appelle PDSS. C'est un partenaire qui travaille avec le ministère de la Santé du Congo. Donc, qui vient en appui au ministère pour essayer de prendre l'écart pourvu que toute la population, quel que soit le niveau de vie, accède plus ou moins aux soins de santé primaires. Et ça pour une couverture sanitaire universelle. Donc, c'est une sorte de inopportunité qui incite les ménages à pouvoir chaque fois consulter d'abord les centres de santé. Et c'est les centres de santé, pour faire respecter la pyramide, qui va référer le malade à l'hôpital général de référence. Et à l'hôpital général, il va bénéficier des soins pour un tarif dérisoire. L'idéal, c'est d'abord inscrire votre ménage et obtenir les jetons.
Alors, une sorte de gratuité, ça commençait quand?
Une gratuité presque partielle, parce que vous voyez les montages, justement, c'est dérisoire. Elle a commencé au début du trimestre 4 de l'année passée, mais les gens n'ont pas compris le message avant. Je crois que les gens maintenant commencent à se rattraper. C'est comme ça, c'est au fur et à mesure que les jours passent, ça devient encore de plus en plus effectif.
Et c'est jusqu'à quand?
Il n'y a pas une date communiquée jusque-là, mais nous pensons que le moment venu, on pourra le dire encore, passer à votre média pour dire que non, ça a pris fin, mais nous pensons que c'est la politique nationale du pays, c'est vers laquelle le pays veut nous amener.
Donc c'est ce qui se ferait, on ne viendrait pas de la maison jusqu'à l'hôpital général?
De toutes les façons, on peut venir de la maison jusqu'à l'hôpital général lorsqu'on se trouve dans la nécessité et que au préalable, si vous avez été identifié, parce que on ne s'identifie pas quand on est malade. Donc on est recensé. Vous restez à la maison avec vos papiers d'identification. Comme ça, quand vous tombez malade, vous prenez seulement vos papiers là, vous mettez dans votre sac et vous venez à l'hôpital.
Oui. Docteur, pour finir, maintenant, un message à la population de Beni qui vous écoute à travers Radio Kapi.
En tout cas, je demande demande à la population de s'approprier ces projets ici. Ce projet vraiment est venu appuyer la misère de la population. Vous savez que s'il faut parler seulement de notre zone ici, nous sommes sinistrés à plusieurs niveaux. Mais lorsqu'il y a un partenaire de prise en charge qui vient appuyer les soins, il permet aux plus démunis de pouvoir accéder aux soins. Je crois que c'est un projet à capitaliser par toute la population. Et je demande à toute la population d'aller se faire enregistrer dans les centres de santé. Il ne faut pas attendre que l'on soit malade pour aller chercher l'identification du ménage.
Et l'enregistrement là au centre de santé, ça coûte combien? Ça paye combien?
Ça coûte 1000 francs par individu du ménage. Donc un ménage constitué par exemple de 10 personnes payera 1000 francs fois 10 personnes, ça fait 5000 francs. Donc 0,5 par individu. Un ménage de 2 personnes, c'est 1 dollar. Merci beaucoup, madame la journaliste. C'est ce que j'avais à partager avec vous pour l'instant.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni, Franck Mouindo, parlait de la baisse du tarif de soins médicaux à son hôpital. Il s'entretenait avec Guylaine Kassassia. Et c'est la fin de cette édition d'information. Il est 18h20 à Kinshasa. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Élisée Chikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditorial de Pelle Kipela Mondo. Retrouvez cette édition sur www.radiokapi.net.